Deux jours après, la veille du souper offert par Lucien et Coralie à leurs amis, l'ambigu donnait une pièce nouvelle dont le compte devait être rendu par Lucien. Après leur dîner, Lucien et Coralie allèrent à pied de la rue de Vendôme au panorama dramatique, par le boulevard du Temple, du côté du café turc, qui dans ce temps-là était un lieu de promenade en faveur. Lucien entendit vanter son bonheur et la beauté de sa maîtresse. Les uns disaient que Coralie était la plus belle femme de Paris. Les autres trouvaient Lucien digne d'elle. Le poète se sentit dans son milieu. Cette vie était sa vie. Le cénacle, à peine l'apercevait-il. Ces grands esprits qu'il admirait tant de mois auparavant, il se demandait s'ils n'étaient pas un peu niais avec leurs idées et leur puritanisme. Le mot de jobard, dit insouciamment par Coralie, avait germé dans l'esprit de Lucien et portait déjà ses fruits. Il mit Coralie dans sa loge, flânant dans les coulisses du théâtre où il se promenait en sultan, où toutes les actrices le caressaient par des regards brûlants et par des mots flatteurs. « Il faut que j'aille à l'ambigu faire mon métier, » dit-il. À l'ambigu, la salle était pleine. Il ne s'y trouva pas de place pour Lucien. Lucien alla dans les coulisses et se plaignit amèrement de ne pas être placé. Le régisseur, qui ne le connaissait pas encore, lui dit qu'on avait envoyé deux loges à son journal et l'envoya promener. « Je parlerai de la pièce selon ce que j'en aurai entendu, » dit Lucien d'un air piqué. « Êtes-vous bête ?» dit la jeune première au régisseur. « C'est l'amant de Coralie. » Aussitôt, le régisseur se retourna vers Lucien et lui dit « Monsieur, je vais aller parler au directeur. » Ainsi, les moindres détails prouvaient à Lucien l'immensité du pouvoir du journal et caressaient sa vanité. Le directeur vint et obtint du duc de Rhétoré et de Tullia, le premier sujet qui se trouvait dans une loge d'avant-scène, de prendre Lucien avec eux. Le duc y consentit en reconnaissant Lucien. « Vous avez réduit deux personnes au désespoir, » lui dit le jeune homme en lui parlant du baron Châtelet et de madame de Bargeton. « Que sera-ce donc demain ?» dit Lucien. « Jusqu'à présent, mes amis se sont portés contre eux en voltigeurs, mais je tire à boulet rouge cette nuit. »« Demain, vous verrez pourquoi nous nous moquons de Potelet. » L'article est intitulé « Potelet de 1811 à Potelet de 1821. » Châtelet sera le type des gens qui ont renié leur bienfaiteur en se ralliant aux Bourbons. Après avoir fait sentir tout ce que je puis, j'irai chez madame de Montcornet. » Lucien eut avec le jeune duc une conversation étincelante d'esprit. Il était jaloux de prouver à ce grand seigneur combien madame d'Espard et de Bargeton s'étaient grossièrement trompées en le méprisant. Mais il montra le bout de l'oreille en essayant d'établir ses droits à porter le nom de Rubempré quand, par malice, le duc de Rhétoré l'appela Chardon. « Vous devriez, lui dit le duc, vous faire royaliste. Vous vous êtes montré un homme d'esprit, soyez maintenant homme de bon sens. » La seule manière d'obtenir une ordonnance du roi qui vous rende le titre et le nom de vos ancêtres maternels est de la demander en récompense des services que vous rendrez au château. Les libéraux ne vous feront jamais compte. Voyez-vous, la restauration finira par avoir raison de la presse, la seule puissance à craindre. On a déjà trop attendu, elle devrait être muselée. Profitez de ces derniers moments de liberté pour vous rendre redoutable. Dans quelques années, un nom et un titre seront en France des richesses plus sûres que le talent. Vous pouvez ainsi tout avoir. Esprit, noblesse et beauté, vous arriverez à tout. Ne soyez donc en ce moment libéral que pour vendre avec avantage votre royalisme. » Le duc pria Lucien d'accepter l'invitation à dîner que devait lui envoyer le ministre avec lequel il avait soupé chez Florine. Lucien fut, en un moment, séduit par les réflexions du gentilhomme et charmé de voir s'ouvrir devant lui les portes des salons, d'où il se croyait à jamais banni quelques mois auparavant. Il admira le pouvoir de la pensée. La presse et l'esprit étaient donc le moyen de la société présente. Lucien comprit que peut-être Lousteau se repentait de lui avoir ouvert les portes du temple. Il sentait déjà pour son propre compte la nécessité d'opposer des barrières difficiles à franchir aux ambitions de ceux qui s'élançaient de la province vers Paris. Un poète serait venu vers lui comme il s'était jeté dans les bras d'Étienne, il n'osait se demander quel accueil il lui ferait. Le jeune duc aperçut chez Lucien les traces d'une méditation profonde et ne se trompa point en en cherchant la cause. Il avait découvert à cet ambitieux, sans volonté fixe mais non sans désir, tout l'horizon politique, comme les journalistes lui avaient montré du haut du temple, ainsi que le démon à Jésus, le monde littéraire et ses richesses. Lucien ignorait la petite conspiration ourdie contre lui par les gens que blessait en ce moment le journal, et dans laquelle Monsieur de Rhétoré trempait. Le jeune duc avait effrayé la société de Madame d'Espard en leur parlant de l'esprit de Lucien. Chargé par Madame de Bargeton de sonder le journalisme, il avait espéré le rencontrer à l'ambigu comique. Ni le monde, ni les journalistes n'étaient profonds. Ne croyez pas à les trahisons ourdies. Ni l'un, ni les autres, ils n'arrêtent de plomb. Leur machiavélisme va, pour ainsi dire, au jour le jour, et consiste à toujours être là, prêt à tout, prêt à profiter du mal comme du bien, à épier les moments où la passion leur livre un homme. Pendant le souper de Florine, le jeune duc avait reconnu le caractère de Lucien. Il venait de le prendre par ses vanités et s'essayait sur lui à devenir diplomate. Lucien, la pièce jouée, courut à la rue Saint-Fiacre y faire son article sur la pièce. Sa critique fut, par calcul, âpre et mordante. Il se plut à essayer son pouvoir. Le mélodrame valait mieux que celui du panorama dramatique, mais il voulait savoir s'il pouvait, comme on le lui avait dit, tuer une bonne et faire réussir une mauvaise pièce. Le lendemain, en déjeunant avec Coralie, il déplia le journal, après lui avoir dit qu'il y éreintait l'ambigu comique. Lucien ne fut pas médiocrement étonné de lire, après son article sur Madame de Bargeton et sur Châtelet, un compte-rendu de l'ambigu si bien édulcoré durant la nuit, que tout en conservant sa spirituelle analyse, il en sortait une conclusion favorable. La pièce devait remplir la caisse du théâtre. Sa fureur ne saurait se décrire. Il se proposa de dire deux mots à Lousteau. Il se croyait déjà nécessaire et se promettait de ne pas se laisser dominer, exploiter comme un niais. Pour établir définitivement sa puissance, il écrivit l'article où il résumait et balançait toutes les opinions émises à propos du livre de Nathan pour la revue de Doria et de Finot. Puis, une fois monté, il brocha l'un de ses articles variétés dus au petit journal. Dans leur première effervescence, les jeunes journalistes pondent des articles avec amour et livrent ainsi très imprudemment toutes leurs fleurs. Le directeur du panorama dramatique donnait la première représentation d'un vaudeville afin de laisser à Florine et à Coralie leur soirée. On devait jouer avant le souper. Lousteau va chercher l'article de Lucien, fait d'avance sur cette petite pièce, dont il avait vu la répétition générale, afin de n'avoir aucune inquiétude relativement à la composition du numéro. Quand Lucien a lu l'un de ses petits charmants articles sur les particularités parisiennes qui firent la fortune du journal, Étienne l'embrassa sur les deux yeux et le nomma la providence des journaux. « Pourquoi donc t'amuses-tu à changer l'esprit de mes articles ?» dit Lucien, qui n'avait fait ce brillant article que pour donner plus de force à ses griefs. « Moi ?» s'écria Lousteau. « Eh bien, qui donc a changé mon article ?»« Mon cher, » répondit Étienne en riant, « tu n'es pas encore au courant des affaires. L'ambigu nous prend 20 abonnements, dont 9 seulement sont servis au directeur, au chef d'orchestre, au régisseur, à leur maîtresse et à 3 copropriétaires du théâtre. Chacun des théâtres du boulevard paye ainsi 800 francs au journal. » Il y en a pour tout autant d'argent en loge donné à Finot, sans compter les abonnements des acteurs et des auteurs. Le drôle se fait donc 8 000 francs au boulevard, par les petits théâtres, juges des grands. Comprends-tu? Nous sommes tenus à beaucoup d'indulgence. Je comprends que je ne suis pas libre d'écrire ce que je pense. Et que t'importe si tu es fait des orges? S'écria Lousteau. D'ailleurs, mon cher, quel grief as-tu contre le théâtre? Il te faut une raison pour échiner la pièce d'hier. Échiner pour échiner, nous compromettrions le journal. Quand le journal frapperait avec justice, il ne produirait plus aucun effet. Le directeur t'a-t-il manqué? Il ne m'avait pas réservé de place. Bon, fit Lousteau, je montrerai ton article au directeur, je lui dirai que je t'ai adouci, tu t'en trouveras mieux que de l'avoir fait paraître. Demande-lui demain des billets, il t'en signera 40 en blanc tous les mois, et je te mènerai chez un homme avec qui tu t'entendras pour les placer. Et tu les achèteras tous à 50% de remise sur le prix des places. On fait sur les billets de spectacle le même trafic que sur les livres. Tu verras un autre barbé, un chef de claque. Il ne demeure pas loin d'ici, nous avons le temps. Viens. Mais mon cher, Finot fait un infâme métier à lever ainsi sur les champs de la pensée des contributions indirectes, tôt ou tard. Ah ça, d'où viens-tu? S'écria Lousteau. Pour qui prends-tu Finot? Sous sa fausse bonhomie, sous sa derrière carrée, sous son ignorance et sa bêtise? Il a toute la finesse du marchand de chapeaux dont il est issu. N'as-tu pas vu dans sa cage, au bureau du journal, un vieux soldat de l'Empire, l'oncle de Finot? Cet oncle est non seulement un honnête homme, mais il a le bonheur de passer pour un niais. Il est l'homme compromis dans toutes les transactions pécuniaires. À Paris, un ambitieux est bien riche quand il a près de lui une créature qui consent à être compromise. Il est en politique comme en journalisme une foule de cas où les chefs ne doivent jamais être mis en cause. Si Finot devenait un personnage politique, son oncle deviendrait son secrétaire et recevrait pour son compte les contributions qui se lèvent dans les bureaux sur les grandes affaires. Giroudeau, qu'au premier abord on prendrait pour un niais, a précisément assez de finesse pour être un compère indéchiffrable. Il est en vedette pour empêcher que nous nous soyons assommés par les criailleries, par les débutants, par les réclamations, et je ne crois pas qu'il y ait son pareil dans un autre journal. Il joue bien son rôle, dit Lucien. Je l'ai vu à l'œuvre. Étienne et Lucien allèrent dans la rue du Faubourg du Temple, où le rédacteur en chef s'arrêta devant une maison de belle apparence. « Monsieur Brolard y est-il » demanda-t-il au portier. « Comment, monsieur ?» dit Lucien. « Le chef des claqueurs est donc monsieur ?»« Mon cher, Brolard a 20 000 livres de rente. Il a la griffe des auteurs dramatiques du boulevard qui tous ont un compte courant chez lui, comme chez un banquier. Les billets d'auteur et de faveur se vendent. Cette marchandise, Brolard la place. Fais un peu de statistiques, science assez utile quand on n'en abuse pas. À 50 billets de faveur par soirée à chaque spectacle, tu trouveras 250 billets par jour. Si l'un dans l'autre ils valent 40 sous, Brolard paye 125 francs par jour aux auteurs et court la chance d'en gagner autant. Ainsi, les seuls billets des auteurs lui procurent près de 4000 francs par mois, au total 48000 francs par an. Suppose 20000 francs de perte, car il ne peut pas toujours placer ses billets. Pourquoi? Ah, les gens qui viennent payer leur place au bureau passent concurremment avec les billets de faveur qui n'ont pas de place réservée. Enfin, le théâtre garde ses droits de location. Il y a les jours de beau temps et de mauvais spectacles. Ainsi, Brolard gagne peut-être 30000 francs par an sur cet article. Puis il a ses claqueurs, autre industrie. Florine et Coralie sont les tributaires. Si elles ne le subventionnaient pas, elles ne seraient point applaudies à toutes les entrées et leurs sorties. Lousteau donnait cette explication à voix basse en montant l'escalier. Paris est un singulier pays, dit Lucien en trouvant l'intérêt accroupi dans tous les coins. Une servante proprette introduisit les deux journalistes chez M. Brolard. Le marchand de billets, qui siégeait sur un fauteuil de cabinet devant un grand secrétaire à cylindre, se leva en voyant Lousteau. Brolard, enveloppé d'une redingote de molleton gris, portait un pantalon à pied et des pantoufles rouges, absolument comme un médecin ou comme un avoué. Lucien vit en lui l'homme du peuple enrichi. Un visage commun, des yeux gris pleins de finesse, des mains de claqueur, un teint sur lequel les orgies avaient passé comme la pluie sur les toits, des cheveux grisonnants et une voix assez étouffée. « Vous venez sans doute pour Mademoiselle Florine, et monsieur pour Mademoiselle Coralie, dit-il. Je vous connais bien. Soyez tranquille, monsieur, dit-il à Lucien. J'achète la clientèle du gymnase. Je soignerai votre maîtresse et je l'avertirai des farces qu'on voudrait lui faire. Ce n'est pas de refus, mon cher Brolard, dit Lousteau. Mais nous venons pour les billets du journal à tous les théâtres des boulevards. Moi comme rédacteur en chef, monsieur comme rédacteur de chaque théâtre. Ah oui, Finot a vendu son journal, j'ai su l'affaire, il va bien, Finot. Je lui donne un dîner à la fin de la semaine. Si vous voulez me faire l'honneur et le plaisir de venir, vous pouvez amener vos épouses. Il y aura noces et festins. Nous avons Adèle Dupuis, Ducange, Frédéric du Petit Méré, Mademoiselle Millot, ma maîtresse. Nous rirons bien, nous boirons mieux. Il doit être gêné, Ducange, il a perdu son procès. Je lui ai prêté 10000 francs. Le succès de Calas va me les rendre. Aussi, il est chauffé. Ducange est un homme d'esprit, il a des moyens. Lucien croyait rêver en entendant cet homme apprécier les talents des auteurs. Coralie a gagné, lui dit Brolard de l'air d'un juge compétent. Si elle est bonne enfant, je la soutiendrai secrètement contre la cabale à son début au gymnase. Écoutez. Pour elle, j'aurai les hommes bien mis aux galeries qui souriront et qui feront de petits murmures afin d'entraîner l'applaudissement. Voilà un manège qui pose une femme. Elle me plaît, Coralie, et vous devez être content d'elle. Elle a des sentiments. Ah, je puis faire chuter qui je veux. Mais pour les billets, dit Lousteau. Eh bien, j'irai les prendre chez monsieur, vers les premiers jours de chaque mois. Monsieur est votre ami, je le traiterai comme vous. Vous avez 5 théâtres, on vous donnera 30 billets. Ce sera quelque chose comme 75 francs par mois. Peut-être désirez-vous une avance ? Dit le marchand de billets en revenant à son secrétaire et tirant sa caisse pleine d'écus. « Non, non, dit Lousteau, nous garderons cette ressource pour les mauvais jours. « Monsieur, reprit Brolard en s'adressant à Lucien, j'irai travailler avec Coralie ces jours-ci, nous nous entendrons bien. » Lucien ne regardait pas sans un étonnement profond le cabinet de Brolard, où il voyait une bibliothèque, des gravures, un meuble convenable. En passant par le salon, il en remarqua l'ameublement également éloigné de la mesquinerie et du trop grand luxe. La salle à manger lui parut être la pièce la mieux tenue, il en plaisanta. Mais Brolard est gastronome, dit Lousteau. Ses dîners, cités dans la littérature dramatique, sont en harmonie avec sa caisse. J'ai de bons vins, répondit modestement Brolard. Allons, voilà mes allumeurs, s'écria-t-il en entendant des voix enrouées et le bruit de pas singuliers dans l'escalier.